Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez de terminer une visite en République démocratique du Congo. Vous êtes beaucoup sorti depuis un an, une dizaine de fois. C'est une véritable rupture avec votre prédécesseur. En quoi c'est important aujourd'hui pour le Burundi de s'ouvrir ?
Bon, d'abord, chaque chose a son temps. Et nous avons passé des moments très difficiles, des moments où le pays avait des difficultés parce qu'il avait été imposé des sanctions injustement. Alors à ce moment-là, quand le monde extérieur vous enferme, vous essayez de gérer la situation interne. Donc depuis 2015, on essayait de tisser le tissu interne. Et après, quand nous avons vu qu'il y a la volonté d'ouverture, j'ai décidé d'organiser des dialogues avec nos partenaires extérieurs. Mais aussi, nous avons des amis que nous devrions visiter pour échanger, pour nous harmoniser sur les points de vue de la situation politique de la région et au niveau international. Et aussi, s'inquiéter de l'expérience des autres.
Alors, vous avez rencontré votre homologue, Félix Tshisekedi. Vous avez notamment parlé des questions sécuritaires. Il y a encore des groupes armés qui sont hostiles à votre régime, qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. De quoi avez-vous parlé avec le président Tshisekedi? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire?
D'abord, je me réjouis que les deux pays ne se reprochent de rien. On n'a rien à reprocher au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais aussi n'a rien à reprocher au gouvernement burundais. Ce sont des défis communs. Il est vrai qu'il y a des forces négatives qui sont même contre le Burundi. Mais nous savons les origines et tout cela. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des rejetés, ce ne sont pas des refoulés de la société burundaise. Ce sont des gens qui avaient peur d'abord en 2015, qui ont fui vers le Rwanda et le Rwanda les a formés. Et puis, comme ils ont échoué trois fois à attaquer le Burundi, ils ont préféré aller dans un endroit où ils sont libres. Parce que quand il y a l'instabilité à l'est du Congo, les forces négatives ont aussi l'opportunité pour s'installer là parce que personne ne peut les attaquer. Et maintenant, je pense qu'avec la détermination du président congolais qui est déterminé à ramener la paix à l'est du Congo, nous pensons que ces forces négatives pourront être anéanties et les membres pourront rejoindre leur pays et se réformer, même dans leur esprit, pour travailler ensemble avec les citoyens burundais. Nous avons espoir.
Mais est-ce que ça veut dire que vous envisagez une solution militaire ou qu'un dialogue politique est possible avec ces groupes armés?
D'abord, ce sont des enfants de la nation. Ils n'ont pas de réseau politique. Si le Burundi est prêt à le recevoir et à les réformer dans l'esprit, parce qu'ils ont besoin aussi d'être rééduqués pour avoir le même esprit que les autres citoyens honnêtes du pays.
Pour ce qui est de la solution militaire, est-ce qu'il est envisagé que l'armée burundaise participe à ces opérations? On sait que le groupe d'experts des Nations Unies a pointé en janvier le fait que parfois votre armée faisait des incursions. Dans quel cadre est-ce que se font ces opérations? Est-ce qu'il y a un droit de poursuite qui a été négocié?
D'abord, c'est faux. L'armée burundaise n'a jamais fait des incursions en RDC. Je crois que ce sont des gens qui veulent discréditer le pays, qui veulent s'intercaler dans les bonnes relations entre le Burundi et la RDC. Sinon, avec l'armée burundaise qui a une expérience dans la lutte contre le terrorisme international, nous sommes prêts à aider.
Mais vous n'avez pas abordé cette question avec le président Tshisekedi?
On a parlé de cette question de sécurité. Au niveau technique, ils vont étudier ensemble que faire pour anéantir ces forces négatives qui sont là. Sinon, on s'est entendu que nos officiers doivent travailler ensemble pour pouvoir chercher des stratégies afin de stabiliser cette région.
Parmi les questions clés, il y a aussi la question des réfugiés. Vos compatriotes, notamment ceux qui sont au Congo, mais pas seulement, ne souhaitent pas rentrer malgré des conditions qui sont très difficiles dans les camps de réfugiés et malgré des opérations de rapatriement volontaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus comme geste pour restaurer la confiance avec cette population réfugiée?
La question des réfugiés dans la région de Grand-Lac est une question très complexe. Imaginez-vous, il y a les citoyens congolais qui sont des réfugiés au Burundi et les Burundais qui sont réfugiés à l'est du Congo. J'ai vu comment les Burundais fouillaient. Ils cherchaient de laisser passer des passeports et puis ils allaient en bus. C'est-à-dire que la forme de la question des réfugiés au Burundi n'est pas la forme comme normal. Donc ce qui fait que quand ils veulent retourner, ils savent eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème pour retourner, comme ils sont partis aisément. Et pour revenir, c'est la même chose. Ce que nous faisons, c'est toujours les appeler à rejoindre leur patrie, afin de vivre normalement comme les autres dans le pays.
Parmi les mémorandums que vous avez signés avec le président Tshisekedi, il y a celui pour la construction d'un chemin de fer entre Gitega et Kindu qui doit mener jusqu'à la Tanzanie. Où en est ce projet ? Quand est-ce qu'on peut espérer voir ces travaux débuter ? Et combien est-ce que ça va coûter ?
D'abord, ce chemin de fer est important du fait qu'il faut qu'on désenclave l'est du Congo. Si vous voyez l'instabilité qui se trouve, c'est parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Les forces négatives sont libres de tout faire. Donc s'il y a le chemin de fer, d'abord, il y a la stabilisation, il y a aussi la facilitation des échanges commerciaux parce qu'il y a une voie de communication. Et comme vous le savez, l'est du Congo, depuis l'histoire, Bujumbura, c'est comme leur capitale. Ils s'approvisionnent à Bujumbura. Donc, ça sera très facile de faciliter ces échanges. Il y aura des enclavements de l'est du Congo, mais aussi le Burundi en profite parce que aussi nous voulons être désenclavés par rapport à Dar es Salaam. C'est-à-dire le pays aussi va être facilité dans le fait de liberté de mouvement des personnes et des biens.
Et ça peut commencer quand, ces travaux ?
Pour les études de Uvinza à Gitega, c'est déjà terminé. Maintenant, on va faire ensemble, finaliser les études de Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Et quand on va finaliser les études, c'est là où on saura le chronogramme de mise en œuvre.
Alors, vous avez visité presque tous vos voisins, sauf le Rwanda. Pourtant, il y a un processus de normalisation des relations entre vos deux pays. Où en est ce processus et quand est-ce qu'on peut espérer avoir une de vos visites au Rwanda ou une visite de votre homologue Paul Kagame au Burundi ?
Je crois que nous avançons très bien dans cette question. D'abord, comme vous le savez, le Rwanda et le Burundi, je le dis souvent, nous sommes des cousins. Dans notre culture, les cousins se dérange souvent. Alors j'ai vu qu'il y a l'évolution positive parce que d'abord, à la frontière commune, les officiers, les commandants des unités de défense se sont rencontrés plusieurs fois maintenant. Et sur la question de sécurité, je vois que ça évolue positivement. Le premier ministre du Rwanda est venu célébrer avec nous la fête de l'indépendance nationale. Et j'ai déjà envoyé le ministre des Affaires étrangères qui est allé au Rwanda. Même je vois que les messages sont positifs. Donc, il y a espoir que dans un proche avenir, il pourra y avoir une solution finale.
Alors, il y a un autre partenaire avec lequel vous avez repris le dialogue après 5 années d'interruption, c'est l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne, c'était le plus grand bailleur du Burundi. Où en est-on de ce dialogue ?
Et nous avons déjà amorcé le dialogue avec l'Union européenne. Au niveau des ambassades de la représentation à Bujumbura, je vois que nous évoluons très bien maintenant. Nous attendons la réunion décisive qui va être organisée en Europe et nous espérons que ça va vite terminer.
Parmi les demandes de l'Union européenne, il y a le fait que la situation des droits de l'homme s'améliore et que la bonne gouvernance s'améliore également. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire avancer ces deux dossiers ?
Le gouvernement a la responsabilité de protéger les droits de l'homme et la bonne gouvernance, c'est notre cheval de bataille. Donc, s'ils disent nous voulons la protection des droits humains, ils vont nous dire où est-ce qu'il y a les défauts. Comme ça, on va étudier ensemble pour voir. Sinon, la vision est commune. Nous voulons tous la protection des droits de l'homme, nous voulons tous la bonne gouvernance. Alors, je ne vois pas où peut venir la discordance ou les divergences de vues. Je pense que l'Union européenne a pris cette décision unilatéralement. C'est maintenant, il est temps qu'il revoie cette décision, sinon je ne vois pas les raisons d'être de ces sanctions contre le Burundi.
Il y a quand même des arrestations d'opposants, et notamment ceux du parti d'Akaton Rwasa. Ça inquiète encore beaucoup les organisations de défense des droits de l'homme.
C'est un problème historique. Les criminels toujours veulent se cacher dans des partis politiques. Quand il est criminel. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas quoi que ce soit. Plutôt, il fallait dire, celui-là a été arrêté. Est-ce que c'est politique ou il est criminel ? Donc, ce que nous faisons, c'est effectivement rendre l'état de droit état de droit. Si vous êtes criminel, nous avons l'obligation de protéger les citoyens, de poursuivre et de juger les criminels.
Mais parfois, ces opposants disparaissent complètement. Souvent, ils disparaissent pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas accès à un avocat pour les assister. C'est ça aussi l'état de droit, c'est de pouvoir être assisté d'un avocat quand on est accusé de quelque chose.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne est disparue. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Vous savez qu'il y a eu 19 criminels qui ont saccagé une famille, qui ont tué des personnes à Kayanza. Et après, ils ont fui vers le Rwanda. Jusque maintenant, ils sont au Rwanda. Et les gens disent qu'ils sont disparus, mais je sais qu'ils sont quelque part.
Alors, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale de 2020, vous héritez d'un pays qui est le plus pauvre du monde. Il y a des pénuries de biens de première nécessité. Il y a des pénuries en devises. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour lutter déjà contre ces pénuries?
D'abord, je sais que c'est une chanson qui s'inscrit dans la guerre psychologique pour que les citoyens ne soient pas calmés dans leur esprit. D'abord, imaginez un pays qui n'importe jamais de denrées alimentaires. Est-ce que c'est un pays très pauvre? Si aujourd'hui, nous avons pu avoir la surproduction, par exemple, de maïs, demain, nous allons avoir la surproduction de riz. Si les gens mangent, si les gens sont soignés, si les enfants vont à l'école, si les gens sont logés, on donne l'eau potable. Qu'est-ce qui nous manque? En fait, la Banque mondiale, les FMI comptent l'argent et nous comptons les besoins. Est-ce que les citoyens ont des besoins élémentaires au moins? Bon, si ils n'ont pas de dollars, s'ils n'ont pas d'argent pour vivre qu'ils mangent. Vous avez vu que même au niveau de la maîtrise du coronavirus, vous avez vu que le Burundi est parmi les meilleurs pays qui ont pu prévenir le Covid-19.
Alors l'une des critiques des bailleurs, c'est le niveau élevé de corruption. Alors vous avez pris quelques sanctions de votre côté, il y a même eu des arrestations, mais la société civile pointe que ces arrestations sont souvent suivies d'une libération peu après, peut-être et sans doute avec un remboursement. En tout cas, c'est ce qui est avancé. Pourquoi ne pas faire tout ça dans la transparence et faire ces procédures de manière publique pour que chacun sache ce qui est rendu?
Je crois qu'il y a des personnes qui se réjouissent quand il y a tension dans la société. Quand ils voient beaucoup d'arrestations, c'est là où ils sont contents. Quand ils voient que les prisons sont pleines, c'est là où ils sont contents. Et souvenez-vous, la société civile burundaise, ce sont des gens qui ont échoué dans la politique, qui s'enfuient pour se cacher dans la société civile, mais ils continuent à faire la politique en montrant à la communauté internationale qu'ils sont des hommes honnêtes, alors que ce sont eux-mêmes qui sont corrompus. Je connais des gens qui ont des associations de lutte contre la corruption, mais eux-mêmes sont déjà corrompus, qui planifient comment voler, et ensemble avec certains cadres, quand ces cadres font des détournements, ce sont la société civile, les sociétés civiles qui vont les défendre. Parce que, effectivement, ce qui s'est passé, nous avons une histoire propre au Burundi. Nous sommes en train de rétablir la société burundaise, nous sommes en train de réconcilier. Alors tout cela, il y avait des mauvaises habitudes au départ. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre tout sur les rails, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a d'autres qui sont contents.
Donc vous pensez vraiment qu'à travers cette méthode, donc celle d'arrêter temporairement des gens responsables de détournement et de les forcer à un remboursement, vous allez arriver à mettre fin à ces mauvaises habitudes, comme vous les appelez?
Je crois que c'est une stratégie qu'on a prise avant. Les gens disaient, je vais détourner. Si on m'emprisonne, à mon retour, je vais alors consommer ce que j'ai volé. Mais maintenant, il est puni et il rembourse. Donc, ça décourage. Ça décourage parce qu'il sait qu'il ne va rien gagner. Alors maintenant, vous avez vu que j'ai mis en place un système de communication où les citoyens dénoncent. Et quand ils dénoncent, on doit savoir où ça s'est passé. Et alors, quand les gens savent qu'ils n'ont pas d'intérêt à détourner ou à être corrompus, ils vont être découragés, ils vont laisser.
Monsieur le Président, merci.
Merci beaucoup, madame. Merci.